الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أحبتي الكرام، فما زلنا نقرأ شرح كتاب منهج السالكين لمؤلفه عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان بن عبد الله القسير حفظه الله تعالى. وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. طيب، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لا يحل تأخير إخراج زكاة الفطر عن يوم العيد. يقول الشيخ: فلا يحل تأخير دفع زكاة الفطر عن يوم العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي: وأفضل وقت لها، أفضل وقت لها يوم العيد قبل الصلاة، يوم العيد، وعليك السلام ورحمة الله، لكن قبل الصلاة، فيجوز في ليلة العيد، يجوز في ليلة العيد، لأن سبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، ويجوز إخراجها يوم التاسع والعشرين، يوم التاسع والعشرين من رمضان، لقول ابن عمر: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أي كانوا يعطون، أي الصحابة يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري. ومعناه أنهم يخرجونها يوم التاسع والعشرين، فإن كان شهر ناقصا كان قبل العيد بيوم، طيب، وإن كان تاما كان قبل العيد بيومين. والله تعالى أعلم. طيب، donc on poursuit بإذن الله عز وجل la lecture du chapitre de la zakat al-fitr. Zakat al-fitr, celle que l'on donne à la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et on est arrivé à la parole de l'auteur, Cheikh Saadi, rahimahullah, qui dit qu'il n'est pas permis de retarder son acquittement jusque après le jour de l'Eid. Jusqu'à après le jour de l'Eid. C'est-à-dire, il n'est pas permis de sortir zakat al-fitr après l'Eid. En vertu du hadith d'Ibn Omar, qu'on a vu déjà, lorsqu'il a dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'elle soit sortie avant que les gens sortent à la prière. Avant que les gens sortent à la prière ou avant la salat. Avant la salat de manière plus précise. Et également le hadith de Ibn Abbas qu'on va voir inshallah. Mais le meilleur moment, c'est quand le meilleur moment? Le meilleur moment pour la sortir, eh bien c'est le jour de l'Eid, mais avant la prière. Le jour de l'Eid, avant la prière, c'est-à-dire après le Fajr. Après le Fajr, jusqu'à la prière, ça c'est le meilleur moment pour la sortir, pour celui qui peut. Mais il est permis aussi de la sortir la veille, c'est-à-dire la nuit. La nuit qui précède l'Eid. D'accord? Naam. Donc après le Maghreb, tu peux sortir ta zakat, al-fitr si tu veux aussi. Parce que ici, la cause de l'obligation de la sortie des zakat al-fitr, eh bien c'est justement al-fitr. D'accord? C'est la rupture du jeûne, donc la fin du mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, il se termine avec al-Maghrib. Quand le soleil se couche, c'est que le mois de Ramadan il est terminé. Donc tu peux, c'est le meilleur moment à ce moment-là pour sortir ta zakat. Il y a encore mieux après le Fajr. Ça, c'est encore mieux. D'accord? La preuve, c'est que le mot zakat, il est annexé à al-fitr. Zakat, al-fitr. D'accord? Donc le meilleur moment, c'est de verser cette zakat-là au moment de al-fitr. Et al-fitr, il survient quand? Il survient al-maghrib, à la fin de Ramadan. D'accord? Non. Allah Ta'ala alam. Mais le meilleur moment, c'est après le Fajr. Et quand le soleil s'est levé. Non, le jour de l'Aïd. Ou commence à se lever. Il est permis également de la sortir le 29e jour. Le 29 de Ramadan. D'accord? C'est permis. Parce qu'Ibn Omar, il a dit, c'est-à-dire les Sahaba, versaient Zakat al-Fitr avant al-Fitr, c'est-à-dire avant le jour de l'Eid, d'un jour ou de 2 jours. Donc il a versé soit la veille de l'Eid ou l'avant-veille de l'Eid. D'accord? Donc ça prouve que c'est permis aussi. D'accord? Le hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc il a versé en gros le 29e. Ça veut dire que si le mois de Ramadan, il est naqis, c'est-à-dire il fait 29 jours, eh bien, ils l'auront versé la veille, un jour avant. Et si le mois, il est kamil, c'est-à-dire 30 jours, ils l'auront versé 2 jours avant. D'accord? Mais dans les deux cas, c'est permis. Un jour avant ou 2 jours avant, c'est-à-dire le 29e jour, en fait. D'accord? Donc toi, tu arrives, hop, c'est le 29 de Ramadan. Si tu veux verser ta zakat ce jour-là, tu peux, alhamdoulilah. Même si l'Eid, c'est le lendemain ou le surlendemain. C'est bon? Écran?
Après ça devient Sadaqa.
Si tu la donnes après salat, sadaqa.
Ça
Sadaqa.
devient Sadaqa.
Non. Tu as l'ajr de sadaqa. Tu n'as pas l'ajr de zakat al-fitr.
Bravo.
Eh bien sûr.
Si quelqu'un est inouï, il le met de côté. Par exemple.
Il le met de côté, pourquoi?
Vous la donnez.
Quand?
Si vous la donnez à la personne, il est pas. Il la met pour le donner après 2 jours ou un jour après.
Après l'Aïd.
C'est-à-dire, il a préparé pour
C'est
quelqu'un, mais la
possible.
personne, il peut.
Elle n'est pas venue. Attends,
C'est
ma'adour,
un exemple.
Inch'Allah. Si tu as des excuses, bon, par exemple, tu étais en voyage et tu ne pouvais pas donner zakat avant la salat, ou tu ne savais pas que c'était l'Aïd, tu l'as su après, par exemple. Donc, si tu as une excuse, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Tu donnes ta zakat quand tu peux. Taïeb? Non.
C'est 30
Et du ulama, ils disent 29. Ils disent 29e jour. Ou le 28, s'il fait 33. Non. Non. Oui. Il y a même des ulama qui disent 3 jours. 3 jours avant, c'est permis aussi. Voyez. Donc ça dépend. Ça dépend de la vie. Je comprends. ثم يقول وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة لصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين هذا يبين الحكمة من فرضها وأنه خير يعود على المعطي والآخر. Puis il dit les chers ici, une chose qu'on a déjà évoquée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu obligatoire zakat al-fitr en tant que purification pour le jeûneur, comme une purification pour le jeûneur, hein, par rapport aux paroles, aux mauvaises paroles qu'il a eu pendant le mois de Ramadan, pendant son jeûne, ou les mauvaises actions pendant son jeûne. Et c'est également une nourriture pour les pauvres. Donc ici, l'auteur nous expose la sagesse de l'obligation de zakat al-fitr, sachant que la majorité des ulama sont d'avis qu'elle est obligatoire. La majorité sont d'avis que zakat al-fitr est obligatoire. On a vu, pour chaque individu, femme, homme, âgé, petit, esclave ou pas esclave. Voilà.
Et, sur la semaine dernière, on a parlé du fœtus aussi. Pour lui, il y avait une divergence ou pas ça, de le donner de faire zakat, justement, pour avoir...
C'est recommandé, on a vu, c'est recommandé, comme l'a fait Rasman. Mais c'est pas obligatoire. D'accord? Pour le fœtus, c'est pas obligatoire. Rasman. C'est Rasman qui l'avait versé pour le fœtus. D'ailleurs, ça veut pas dire que c'était le seul compagnon. Mais Yanni, c'est lui qui a instauré cela. D'ailleurs. Et donc, ici, on voit la sagesse de l'obligation des zakat et le fœtus. Et que zakat al-fitr, c'est donc un avantage, un profit, non seulement pour celui qui prend, bien sûr, qui en profite, mais celui qui donne aussi. D'abord, celui qui donne, il est purifié de ce qu'on a dit, et en même temps, c'est une nourriture pour les pauvres aussi. فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاتٌ مَقْبُولَ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ رواه أبو داود وابن ماجه. فهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه ودارقطني عن ابن عباس قال دارقطني رواته ليس فيهم مجروح ليس فيهم مجروح وصحح الحاكم وقوله ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قال الشوكاني في نيل الأوطار قوله فهي صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات صدقة من الصدقات وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله تعالى وظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط. الجمهور على أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد مستحب. وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر. فلك أن تخرجها مثلا بعد العصر من يوم العيد. طيب عليه الجمهور عليه الجمهور والحديث يرد عليه لكن الحديث يرد عليه وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام بالاتفاق لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. أيوة. نعم. Puis il dit ici, donc celui qui la verse avant la salat, eh bien c'est une zakat qui est acceptée, maqboula. Mais celui qui la verse après la salat, c'est une sadaqa, une aumône parmi les aumônes. Le hadith, hein, rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Ainsi que Daraqutni, selon Ibn Abbas. Et Daraqutni, il a dit en plus que dans sa chaîne de transmission, il n'y a pas de rapporteurs qui sont majrouh. Il n'y a aucun qui a été critiqué. D'accord? Donc la chaîne de narration, elle est solide, elle est forte. Et elle est authentique, comme l'a dit Al-Hakim. Donc, comme l'a dit Al-Shawkani dans son livre, Nail al-Awtar, il a dit lorsque le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une sadaqa, une aumône, parmi les aumônes, c'est-à-dire que c'est une aumône que l'on pourrait donner à n'importe quel moment de l'année. D'accord? Il n'y a pas de particularité comme zakat al-fitr. Et quant à sa validité, il dit, Cela dépend de la volonté d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais ce qui est apparent, al-zahir, c'est que celui qui sort zakat al-fitr sans excuse, hein, sans excuse valable, après la salat de l'Eid, eh bien c'est comme si il ne l'avait pas sorti. C'est comme si il n'avait pas sorti sa zakat al-fitr. Taïeb. Parce que le point commun entre ces deux-là, c'est-à-dire entre celui qui l'a sorti après la salat al-Eid ou entre celui qui ne l'a pas sorti du tout, d'accord, le point commun c'est quoi? Eh bien c'est le fait qu'ils aient délaissé tout simplement l'aumône obligatoire qui est zakat al-fitr. Taïeb. Il faut savoir, malgré ça, que la majorité des ulama, ils disent que la sortir zakat al-fitr avant salat al-Eid n'est pas obligatoire. Ils disent que c'est recommandé. D'accord? C'est la majorité, ils disent que c'est recommandé de la sortir avant salat al-Eid. Mais eux, ils voient qu'il est permis de la sortir après salat al-Eid. C'est-à-dire avant la fin de Yaoum al-Eid. D'accord? Si tu la sors, par exemple, après l'Asr, le jour de l'Eid, ils disent que ta zakat al-fitr, elle a accepté, elle est valide. D'accord? Mais il est recommandé de la sortir avant. Ça, c'est la majorité des ulama. D'accord? Non. Moi, le premier, je n'étais pas au courant de cet avis-là. On a tous appris, il y en a la vie. Après, il est obligatoire de la sortir avant. Mais c'est vrai que, quand on a les textes, hein, notamment le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, leur avis, même si c'est l'avis de la majorité, non, hein, l'avis de la majorité, il pèse, hein, il est lourd, d'accord? Attention. Mais lorsque le texte il est clair et explicite et il s'oppose à cet avis-là, bien sûr, il faut faire prévaloir le texte. D'accord? Et le texte, il dit quoi? Il dit celui qui la sort après salat al-Eid, c'est une sadaqa parmi les sadaqat. Allahu a'lam, ça dépend après du tafsir, de comment ils ont compris ce hadith, comment ils ont compris fahiya sadaqa min as-sadaqat. Ça dépend comment ils l'ont compris. Ça dépend aussi, peut-être qu'ils ont pris d'autres textes, hein, qui ont fait que ils ont compris que c'était pas obligatoire, mais seulement recommandé. Taïm. Parce qu'encore une fois, les ulama, ils prennent tous les textes, après, ils font un jugement. Donc, il se peut que si tu prends ce hadith-là tout seul, tu comprends que c'est obligatoire, d'accord? Mais quand tu réunis les textes, il se peut que tu comprennes qu'en fait, c'est recommandé. Parce qu'il y a eu d'autres situations particulières qui ont fait qu'elle a été sortie après la salat al-Eid. C'est possible. D'accord? Quoi qu'il en soit, yani, les ulama se basent toujours sur quelque chose. D'accord? Ils se basent. Yani, ils n'émettent pas un avis comme ça, yani, hein, au hasard, ou parce qu'il fait beau. Là. D'accord? Non. Forcément, ils se reposent sur quelque chose. Un texte, une compréhension, une interprétation. Ça y est? Non. Mais le hadith, yani, il s'oppose à cet avis-là. Donc, quand, par contre, le fait de la retarder jusqu'après Yom al-Eid, c'est-à-dire après le Maghrib, le jour de l'Eid, là, il n'y a pas de doute qu'ils sont unanimes que c'est interdit. D'accord? Donc, le fait de la verser le soir de l'Eid, après le Maghrib, c'est interdit. D'accord? Parce que c'est une zakat et qu'il est et le fait de la retarder la zakat du coup, eh bien c'est un péché en vérité, c'est un péché. Cheikh Ben Baz et d'autres que lui, ils disent que celui qui fait ça volontairement n'a commis un péché, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala et il rattrape sa zakat, c'est-à-dire il verse quand même sa zakat al-fitr en espérant qu'Allah il accepte, d'accord, mais ça reste une dette sur lui et il la verse quand même. Comme celui qui retarde sa prière, sans raison. D'accord? Ils ont comparé cela à celui qui fait sa prière en retard, sans raison valable. Ça y est? C'est la même chose. Donc lui, celui qui fait ça, bien sûr, il a commis un péché.
Voilà.
C'est la majorité.
Ah, la majorité de...
C'est la majorité de ulama qui dit ça.
Non,
non, non, non. C'est vrai. Cela, on ne développe pas, si on peut développer. Hein. Vraiment, si on prend le char de Cheikh Al-Uthaymeen, sûrement qu'il a développé, tu vois. On aurait peut-être mieux compris en détail, tu vois, la chose. Mais pour l'instant, on s'en tient au char, Inch'Allah, ça suffit. Et nous, encore une fois, on revient au texte. Pour l'instant, on ne connaît pas les preuves, d'autres preuves que ce hadith-là. Donc, pour nous, on s'en reste au hadith. On en reste là, tu vois. On se suffit du hadith, pour l'instant, qui dit من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. خلاص. الحديث الأوثنتيك. طيب. ثم قال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. طيب حديث عظيم ذكره شيخ المؤلف رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب. طيب لماذا؟ يقول هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة والشاهد من الحديث قوله ورجل تصدق بصدقة ويفيد الحث على صدقة التطوع. طيب هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى أي الحث على صدقة التطوع وبيان ما فيها من الفضل العظيم ولو كانت قليلة وقوله بصدقة ناكرة في سياق الإثبات ناكرة صدقة في سياق الإثبات فهي مطلقة غير مقيدة بكونها نقدا أو غيره أو بكونها قليلا أو كثيرا وهذا مشروط بكتمانها وذلك لتحقيق الإخلاص لله فيها. Puis à la fin du chapitre de Zakat al-Fitr, le Cheikh, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne un hadith qui est connu de tous, bi-idhnillah, rapporté par Abi Huraira dans Sahih al-Bukhari et Muslim. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sept catégories de personnes, Allah tabarak wa ta'ala, les ombragera dans son ombre le jour il n'y aura d'ombre. Sauf la sienne. Un imam juste, hein, un imam adil, un chef, un imam, un dirigeant juste. Shabun, un jeune homme ou une jeune fille qui a grandi dans l'obéissance à Allah tabarak wa ta'ala, malgré son âge. Hein. Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées, d'accord? C'est-à-dire attaché aux adorations hein, dans la mosquée. Pas celui qui est attaché au mur. Ça ne veut pas dire ça. Celui qui est attaché aux adorations de la mosquée, aux prières de la mosquée. D'accord? Donc il vient à la mosquée pour ça, pas pour autre chose. Deux hommes qui sont aimés en Allah, tabarak wa ta'ala, ou deux femmes, hein, qui se sont réunis donc sur l'amour d'Allah, tabarak wa ta'ala, et qui se sont séparés par rapport à l'amour d'Allah. Donc ici, il y a deux tafsirs, vite fait. Les ulama disent que ils se sont séparés à l'amour. C'est-à-dire ils se sont réunis parce qu'ils s'aimaient en Allah, tabarak wa ta'ala, pas parce qu'ils étaient de la même origine ou parce qu'ils aimaient tous les deux, ils avaient les mêmes centres d'intérêt, non. ils sont réunis parce que hein, tous les deux c'était des musulmans, des croyants en Allah Ta'ala. Et ils ont été séparés que par la mort. Donc ils sont restés ensemble, yani, toute leur vie jusqu'à la mort. Et certains disent, parmi les ulama, ils ont été séparés par lorsque l'un des deux, yani justement, s'est éloigné de la religion d'Allah Ta'ala. Donc la chose qui les a séparés, c'est quoi? C'est la religion aussi. Hein? L'amour à Allah, mais aussi le fait de s'éloigner à Allah Ta'ala. Hein? Par exemple, qu'Allah nous en préserve, la personne, yani, l'une des deux, dévie du droit chemin de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Taïb, takfir, il devient takfiri, il devient khariji, il devient ce que tu veux. Et malgré les conseils, yani, elle, malgré la patience, etc., etc., elle ne veut pas revenir. Dans ce cas-là, la séparation, elle est faite justement par rapport à quoi? Par rapport à la religion. D'accord? C'est pas par rapport à une chose personnelle ou privée, non. C'est religieux. D'accord? Donc, c'est les deux explications par rapport à cette catégorie-là. Puis, un homme qui est invité par une femme, hein, qui est invité par une femme à commettre le haram, et une femme en plus qui a un mansib, qui a une fonction, qui est bien placée dans la société, hein, qui a une bonne place dans la société, et en plus qui est belle. D'accord? Mais l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je crains Allah. Donc il rejette ses avances en disant, je crains Allah. C'est-à-dire, il les rejette pour Allah. Et pour rien d'autre. Et un homme qui donne en aumône une aumône, mais qui la donne, yani, dans l'anonymat, en cachette. À tel point que ce que sa main droite a donné, eh bien, sa main gauche, yani, l'ignore. Donc là, bien sûr, c'est une exagération pour dire qu'il a tellement donné de façon anonyme et en cachette, hein, c'est-à-dire que son degré d'ikhlas, il est énorme ici, hein, il est élevé. Quand tu dis que sa main gauche, elle n'a même pas vu ce que sa main droite elle a donné, ça montre vraiment son degré d'ikhlas, mashallah. Et un homme qui invoque Allah tabarak wa ta'ala dans la solitude. Vous voyez, il n'y a personne autour de lui, il est seul et il invoque Allah et ses larmes coulent de ses yeux. Et il pleure à ce moment-là alors qu'il est seul. Non. Donc, hadith, muttafaqun alayhi, mais bien sûr, la partie qui est en rapport avec le chapitre ici, c'est cet homme qui donne cet aumône-là, d'accord, l'aumône. Et là, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il mentionne ce hadith pour nous encourager à donner des sadaqat facultatives. Vous voyez, à ne pas s'en tenir que la zakat est obligatoire, ou zakat est le fait obligatoire, mais pour nous encourager aussi à sortir la sadaqat facultative. D'accord? Non. Et pour nous montrer donc le mérite et la valeur de le fait de donner la zakat, donner des aumônes de manière facultative, non obligatoire. Même si cela est peu. Même si cela est peu. Taïm. Lorsqu'il dit bisadaqatin, donc une aumône, là c'est le mot il est nakira, d'accord, il est indéterminé, indéfini, nakira. Et nakira, dans un contexte d'affirmation ici, al-ithbat, eh bien ça exprime la généralité de la chose. Une sadaqa. Quelle sadaqa? Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite ici. N'importe quelle sadaqa. Que ce soit de l'argent, que ce soit des habits, que ce soit de la nourriture, n'importe quelle sadaqa. D'accord? Que ce soit peu ou beaucoup, peu importe. N'importe quelle sadaqa que tu donnes et qui n'est pas obligatoire à la base, taillé, sous condition de quoi? De l'anonymat. C'est-à-dire que tu l'as donné, mais en cachette. Vous voyez? Eh bien, tu rentres, ou tu es concerné par le hadith ici, parce que cela est une preuve de ta sincérité pour Allah Tabarak wa Ta'ala.
Et si on donne à quelqu'un, par exemple, est-ce qu'on est concerné par le hadith? Si on donne à quelqu'un de n'importe quoi, par exemple.
Ouais, Inch'Allah, t'as. Inch'Allah. Mais tu fais en sorte que personne ne te voit par là, à part la personne. Ouais. Inch'Allah, ta'ala. Mais si tu peux lui donner sans que même elle, elle te voit, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Par exemple, Zakat, tu veux lui donner de l'argent, par exemple. Tu mets sur quoi ton lettre et tu t'en vas. Hein? Si tu es sûr que Inch'Allah, c'est elle qui va ouvrir et qu'il n'y a personne d'autre. Ou Zakat el-Fitr. Zakat el-Fitr aussi, tu peux faire ça. Hein? Tu viens chez où elle habite, tu mets devant sa porte. Il y a un principe. Il n'y a personne qui prendra la nourriture et tout, personne ne prendra ce genre de choses. Même si tu peux, c'est mieux. Bilmen. Une minoukoud.
Bilmen, on l'adore de bon cœur.
Ah, mais ah, bien sûr. Tu donnes sadaqa pour Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que si tu donnes sadaqa, mais qu'après tu dis à la personne, tu te rappelles, je t'ai donné ceci, voilà. C'est ça, et c'est là, là, dis-toi, tu vas annuler ta récompense. Tu vas annuler ta récompense. Tu la donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit, en cachette. Tu fais que personne ne le sait. C'est encore mieux. Ça y est. Après, ça dépend. Les ulama disent que les zakat obligatoires, comme zakat al-fitr, par exemple, c'est obligatoire. Ils disent que c'est mieux de le montrer. Pourquoi? Parce que ça incite les gens à faire pareil. Ça encourage les gens à faire pareil. D'accord? C'est comme pour zakat al-mal aussi. Zakat al-mal, ils disent que c'est bien de le faire aussi devant les gens. Ça y est. Pour rappeler aux gens qu'il faut sortir ses zakat. Ça y est. Surtout, nous aujourd'hui, ou peut-être il y a des gens qui oublient à la sortir ou qui ne la sortent pas, c'est bien de leur montrer l'exemple. Hein? Mais quant aux sadaqat facultatives, c'est mieux de les donner en cachette. Voyez? Voilà.
On a peur de l'ostentation.
C'est-à-dire,
si tu la donnes devant tous les gens, ils vont croire que tu es en ostentation.
Non, mais tu t'en fiches de ce que pensent les gens. C'est toi, c'est... L'affaire, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. D'accord? Et c'est pas n'importe qui non plus. C'est-à-dire que... Un imam, par exemple, un imam, ou un cheikh, ou un savant qui est suivi, et que les gens suivent, lui, c'est mieux pour lui de le faire devant eux. Parce qu'il est suivi, c'est un modèle pour eux. Mais celui qui n'est pas forcément un modèle pour les gens, lui, il voit ce qui est le mieux pour lui-même, par rapport à sa sincérité. S'il voit que c'est mieux de se cacher, parce qu'il sait que ça sera plus sincère pour Allah, tabarak wa ta'ala, il le fait. En fonction de la maslaha. Il regarde la maslaha. Voyez? En général, la maslaha de l'imam et tout, c'est qu'il fasse les choses devant les gens. Même les prières facultatives et tout, tu vois. Il se lève et il va pas se cacher pour les faire. Il le fait devant les gens pour rappeler aux gens la sunna. Montrer aux gens la sunna et que les gens le suivent. Parce qu'il sait que les gens, yani, sont influencés par lui. Et donc, ils vont peut-être, Inch'Allah, bi'idhnillah, faire ce qu'il fait. T'as vu? Alhamdulillah. Babou. أهل الزكاة ومن تدفع له باب أهل الزكاة ومن تدفع له يقول لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب إذن كلمة إنما في قوله تعالى إنما الصدقات إنما تفيد الحصر فلا يصح دفع الزكاة في غير مصارفها التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. واضح؟ مثلا بناء المساجد، هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه ليس داخل في قوله تبارك وتعالى إنما صدقاته. طيب، وليس من الأصناف الثمانية. وكذلك تكفين الموتى، تكفين الموتى وغيرها من جهات البر. دونك on passe au chapitre suivant concernant les ayants droit de la zakat. D'accord, on les appelle ahlul zakat, les ayants droit de az-zakat, et ceux donc à qui on peut verser la zakat. Il dit le cheikh, on ne verse pas la zakat si ce n'est, ou on ne la verse qu'aux 8 catégories de personnes qu'Allah tabarak wa ta'ala a mentionné dans sa parole, dans la sourate At-Tawba, verset 60. Dans le sens rapproché, innama sadaqatu. Donc les aumônes, là on parle des aumônes obligatoires, c'est-à-dire az-zakat. D'accord? On y met la summiyat az-zakat sadaqa. Pourquoi on appelle az-zakat sadaqa? À votre avis? لأن si tu donnes. Mais pourquoi on appelle صدقة؟ صدقة. قال العلماء لأنها دليل على صدق صاحبه. الزكاة دليل على صدق صاحبه. Parce que celui qui la verse, c'est une preuve de sa véracité et de sa sincérité avec Allah تبارك. C'est pour ça qu'on appelle sadaqa. Donc, il dit les aumônes, donc la zakat, elle est due, c'est-à-dire on la donne, on peut la donner. Premièrement, al fuqara, les pauvres. Al masakin, les pauvres. Donc, non. Non, mais en français, il y a une différence de pauvres et nécessiteux. Le nécessiteux n'est pas forcément pauvre.
Il a juste besoin de.
Donc, s'il n'est pas pauvre, alors il ne rentre pas dans ces catégories-là.
Mais en fait, le nécessiteux, c'est quelqu'un qui a un besoin. Et c'est, il n'est pas considéré comme un pauvre, linguistiquement en français. C'est quelqu'un qui galère, quoi.
Donc, c'est le masakin, alors, nécessiteux, c'est ça? D'ailleurs. Troisième catégorie, al-aminin alayha. Donc ceux qui sont chargés par le gouverneur de ramasser az-zakat. Al-amilun alayha. D'accord? Puis on a la quatrième catégorie, al-mu'allafatu qulubuhum. Ceux dont on espère réunir leur cœur. D'accord? Alliés. Ceux dont on espère rallier le cœur. C'est bon? وَفِي الرِّقَابِ. Les esclaves, de manière générale, on va voir c'est quoi exactement. وَالْغَارِمِينَ. Les endettés, de manière générale. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. Dans le sentier d'Allah. وَابْنِ السَّبِيلِ. Le voyageur. On verra c'est qui exactement. Donc, فَرِيدَةً, c'est un décret de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah, il est omniscient et sage. C'est bon, Ikhwan? Là, on a les huit catégories. On va les détailler, Inch'Allah. Il y a les deux. Il y a le musulman et le kafir. Il y a le kafir et le musulman aussi. Donc la parole ici, innama. Allah, il commence sa parole. Innama. Donc innama, ça exprime al-hasr. La restriction, la limitation. Donc c'est comme si Allah, il te disait que az-zakat ici, on peut la sortir qu'à ces huit catégories-là. Et à personne d'autre. La preuve, innama. Innama as-sadaqatu. Al-hasr. D'accord? Non. Donc il n'est pas permis et c'est pas valide, de verser la zakat à d'autres catégories que ces huit-là, qu'Allah tabarak wa ta'ala a cité. Et donc, il n'est pas permis, par exemple, de verser la zakat pour construire des mosquées. Ça y est ? Adala yajouz. Tu as ta zakat, tu la donnes à une mosquée. Pour construire la mosquée, pour agrandir la mosquée, maintenant. Adala yasih. C'est pas valide. Pourquoi ? Parce que Allah, il n'a pas mentionné les mosquées ici. D'accord ? C'est bon ? Là, on parle de zakat. Non, zakat al-mal. C'est que. On a détaillé, hein, zakat al-mal. Al-Nuqud.
Bien sûr. Là. Hmm? Je sais pas ce que toutes les zakat, les obligations.
Ouais, c'est ça. Non, non, je veux dire. Là, on parle des catégories. C'est les catégories avec les catégories. Que zakat al-mal.
Non, tu vois.
On n'a vu que deux zakat. On a vu zakat al-mal et zakat al-fitr.
Les zakat al-mal,
les zakat, c'est ça que je veux savoir. Non, non, ce verset-là, il concerne l'obligatoire. Il concerne l'obligatoire. D'accord? Tout ce qui n'est pas obligatoire, tu peux donner à qui tu veux. C'est pas obligatoire. Tu peux donner à un riche si tu veux, mais bon. Hein? Tu peux donner à un riche, hein? Et tout ce qui est facultatif. Ça y est? Si tu as l'intention de retirer à l'islam. Al-Muhim. Il faut savoir que même ici, il se peut qu'ils soient riches. Attention. Il y a une catégorie là qui. Il se peut qu'ils soient riches. Vous voyez ? Même Al-Aminoun. Allez, hein. C'est pas obligé qu'ils soient pauvres. Hein. Tu vois ? Bref. Également, le fait de donner sa zakat pour acheter un linceul pour les morts, par exemple. D'accord ? Pour enterrer les morts, les laver, etc. etc. Ah, c'est pas permis aussi. Pourquoi c'est pas inclus dans le verset d'Allah tabarak wa ta'ala, même si cela fait partie des actes, des bonnes actions, de bienfaisance, mais al-zakat, al-wajib. D'accord ?
Et pour les
Pour les
pauvres,
ce qui est pauvre, qu'on le sent ici, par exemple, on peut la donner à. On arrive. Là, c'est déjà Inch'Allah. طيب. ومصارف الزكاة ثمانية أصناف. مصارف الزكاة ثمانية أصناف. هي الصنف الأول والثاني. الصنف الأول الفقراء والثاني المساكين. الفقراء جمع فقير. أي جمع فقير المفرد فقير الجمع فقراء وهو من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد بعضها مما دون النصف أي تعريف دقيق والمساكين جمع ماذا مسكين وهو من يجد أكثر الكفاية أو نصفها طيب يعني لم يجد كفايته ولكن قد يجد أكثرها أو نصفها فيعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما مع من يعولنه لمدة سنة طيب. Donc, on va voir maintenant en détail, Inch'Allah, ou un peu plus détaillé, ces huit catégories. Donc, on a d'abord Al-Fuqara et Al-Masakin. Ça, c'est les deux premières catégories. D'accord ? La première, Al-Fuqara. La deuxième, Al-Masakin. Donc, Al-Fuqara et Al-Masakin, ces deux mots, hein, Ida ijtama'a iftaraqa. Ida iftaraqa ijtama'a. D'accord, comme dit Cheikh Al-Uthaymeen, ces deux mots-là, lorsqu'ils sont cités dans le même texte, ils auront un sens chacun différent. Mais s'ils sont cités séparément, ils ont le même sens. D'accord? Non. Donc, le fuqara ici, comme il est cité avec le masakin, il aura un sens propre à lui, et le masakin, un autre sens propre à lui. Donc, le fuqara, c'est le pluriel de faqir. C'est celui qui n'a pas de quoi se suffire. D'accord? Pour lui et ceux qui sont sous sa responsabilité. Taïeb. Ou qui a, donc celui qui n'a rien, celui qui a zéro, c'est un faqir, sans aucun doute. Ou celui qui a un peu, mais qui n'a pas de quoi se suffire pour la moitié de l'année. La moitié de ce dont il a besoin pour vivre. Ça y est ? Donc, on va prendre le mois, pour mieux qu'on comprenne mieux le mois. Aujourd'hui, hein, souvent, on marche aux mensualités, d'accord ? On a des rentrées mensuelles. Des rentrées mensuelles. Et on imagine que la personne n'a pas d'économie, n'a rien. D'accord ? Elle n'a que les rentrées mensuelles. Par exemple, elle a une rentrée mensuelle de temps. Elle a 1000 euros. D'accord ? C'est 1000 euros. Donc celui qui a 0 euros, c'est un faqir, il n'y a pas de doute. Mais celui qui a un peu, il a 1000 euros par mois. Mais ces 1000 euros-là ne lui permettent pas de vivre jusqu'à la moitié du mois. C'est un faqir.
C'est pour ça.
Faqir. Faqir. Utilise faqir, c'est mieux. D'accord ? Il y a faqir et miskin. Ça, c'est faqir. Celui qui n'a pas de quoi se suffire, ou celui qui a de quoi vivre jusqu'à la moitié du mois, ou non, moins que la moitié, d'accord ? Il a de quoi suffire, mais moins que la moitié, soit du mois ou l'année, hein? D'accord ? Non. Oui. Est-ce que c'est compris, les frères ? Là, c'est un peu... Sûr ?
Un mouton, Aïd, bien.
Sadaqa jari, hein? Sadaqa jari, là? Là, là, là.
Il n'a pas pour acheter un mouton. L'Aïd.
Ah, l'Aïd?
L'Aïd. L'Aïd, kibir.
Sadaqa mina sadaqat. Mais ليس sadaqa jari, hein? C'est pas sadaqa jari, hein? Maintenant, al-masakin. Al-masakin, c'est le pluriel de miskin. D'accord? Al-miskin, c'est celui qui n'a pas de quoi se suffire pour finir le mois aussi. Comme le premier, al-faqir. Sauf que lui, il a un peu plus quand même. Il arrive à dépasser la moitié, voire il arrive à atteindre la moitié quand même. Il arrive à vivre, par exemple, si le mois il fait 30 jours, hein, il arrive à vivre jusqu'au 15, voire plus. Mais il ne finit pas le mois. Lui, c'est un miskin. Alors que le faqir, lui, il arrive à vivre jusqu'au 14 maximum. Maximum 14. C'est bon, Ikhwan ? Ça va ? Alhamdulillah. Donc là, c'est précis, les frères. Hein? Le miskin, minimum la moitié. Vous voyez ? Le faqir, maximum, c'est même pas la moitié. C'est avant la moitié. C'est bon. Dès qu'il atteint la moitié, il devient miskin. C'est bon, Malik? Donc, on donne à ces deux-là, on leur donne al-faqir et al-miskin, on leur donne donc ce dont ils ont besoin pour vivre le reste du temps. Ça y est? Non. Donc, s'ils n'ont aucune rentrée mensuelle, on leur donne de quoi vivre pendant une année. Pour la personne et leur famille. Et leur famille. Ou si on parle en termes de mensualité, tous les mois, on va leur donner de quoi leur suffire pour vivre jusqu'à la fin du mois. C'est bon? Ça en est où, là?
Non, c'est bon, ça. C'est juste que on leur donne de quoi vivre pendant une année.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne ce dont ils ont besoin pour vivre, pour finir le mois ou finir l'année. D'accord? Donc, c'est leur arrivent au 15 du mois, ils n'ont plus rien, on leur donne de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. C'est bon? Mensuellement, yani. Tous les mois.
Si une personne a une somme, par exemple, de côté, qui ne suffit pas, que tous les mois, elle a une rentrée d'argent, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'elle est éligible, c'est bon?
Ben non. Ben non, elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Elle prend son argent et l'utilise pour subvenir à ses besoins. Ça y est. Subhanallah. Non, le pauvre, c'est celui qui n'a rien. Celui qui a de l'argent de côté, il va prendre la zakat alors qu'il a 10 000 euros dans son compte. Je dis, ouais, c'est pour la hijra. Ah non. Ah non, le miskin, le faqir, c'est lui qui n'a rien. Ou presque rien. D'accord? Non. Taïe. Et bien, le faqir, ma'khoud, comme a dit l'ahle l'ilm, ou ba'douhum, ma'khoud min faqar al-dahr. Faqar al-dahr. Aïe, maksour al-dahr. Ka'an al-faqir maksour al-dahr. لعدم وجود حاجته وقيل مأخوذ من الأرض القفر أي الخالية القفر الخالية pourquoi on l'appelle الفقير pourquoi on l'appelle الفقير justement العلماء يجي c'est par rapport à فقار الظهر يعني les vertèbres du dos ou de la colonne vertébrale d'accord les vertèbres comme si il avait le faqir comme s'il avait le dos cassé à cause de la pauvreté, à cause du fait qu'il n'a pas de quoi se suffire. D'accord? D'autres disent que c'est par rapport à Al-Qafr. Al-Qafr, c'est une terre qui n'a ni eau, ni arbre, ni herbe, ni rien. D'accord? Une terre aride, désertique. Al-Qafr. Comme le faqir, lui, il n'a pas de sous, il n'a rien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé فقير والمسكين وهو صنف الصنف الثاني أهل الزكاة والفقير مأخوذ الفقير المسكين مأخوذ من السكون من السكون أي عدم الحركة كأن الفقر أسكنه وأذله donc le miskin lui pourquoi on l'appelle comme ça dans l'angarab le miskin le pauvre parce que cela vient de as-sukun. As-sukun, c'est l'inaction, l'absence d'action. As-sukun. D'accord? L'absence de mouvement. C'est pour ça que as-sukun, hein, sur les huruf, quand il n'y a pas de harakat, pas de fatha, pas de dhamma, il n'y a pas de kasra, là, on met sukun, il y a un sukun. Parce qu'il n'y a pas de harakat, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien. D'accord? Comme si la pauvreté, yani, l'empêchait de bouger. L'empêcher de se déplacer et de faire des mouvements. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle miskin. Allah wa'ala. As-sinf al-thalith, al-amilouna alayha, wa hum as-su'atu al-lazina yab'athuhum al-imam li-akhdhi al-zakat min ashabiha fayadkhulu fihi al-jabi wal-hafidh wal-katib wal-qasim laha بين مستحقيها ويعطى العامل قدر أجرته منها يعطى العامل قدر أجرته منها ولو كان غنيا ولو كان غنيا فإذا كان للعامل راتب لكن إذا كان للعامل راتب من بيت المال فلا يحل له أخذ شيء منها له أجرة له راتب من بيت المال فلا يأخذ شيئا من الزكاة لأنه إنما يعطى منها بقدر أجرته فإذا دفع له أجرة حرم عليه أخذ أكثر منها la troisième catégorie العاملون عليها donc ceux qui ont pour travail hein, de récolter la zakat. Et encore récolter, c'est juste une des fonctions de ces gens-là. D'accord? On verra qu'il y a plusieurs fonctions, yani, qui sont concernées par Al-Amilouna alayha. Donc ce sont ceux qui sont chargés par le gouverneur, d'accord, de récolter la zakat, de collecter la zakat de leur propriétaire. Rentre dedans Al-Jabi, le collecteur. Et également Al-Kadi, hein, celui qui va avoir pour travail d'écrire, de mettre par écrit toutes ces choses-là. Al-Qasim, celui qui va faire le partage entre les différents ayants droit. On va donner tant à un tel, tant à un tel, tant à un tel. Lui aussi fait partie de cette catégorie-là. Et donc, on va donner à ces travailleurs-là, qui sont là donc, pour faire toutes ces tâches de la zakat, on va leur donner un salaire de la zakat. D'accord ? Donc, si la personne a pour salaire, mathalan, 1000 euros, d'accord, 1000 euros pour faire le travail qu'il doit faire, on peut lui donner 1000 euros de la zakat. D'accord ? Et même s'il est riche, hein, même si la personne, elle n'est pas pauvre, qu'elle n'a pas de besoins particuliers, eh bien, on peut donner son salaire avec la zakat. D'accord ? Par contre, si le travailleur, son salaire, il est déjà pris du trésor public, Bayt al-Mal. D'accord ? Bayt al-Mal, on parle des pays musulmans. Bayt al-Mal. Le gouverneur lui donne déjà un salaire qui est pris directement du trésor public. Par contre, lui, il n'aura pas le droit de prendre un truc en plus de la zakat, parce qu'il a déjà son salaire, déjà, de la cuvée versée. D'accord ? Donc, on a dit que la zakat peut lui être versée par rapport à son salaire, c'est tout. D'accord ? C'est une rémunération pour lui. Mais si sa rémunération, elle est déjà assurée par le trésor public, dans ce cas-là, il prendra rien de la zakat. Il n'aura pas le droit. C'est clair ou c'est flou ?
C'est flou.
C'est flou ? C'est quoi qui est flou ?
En général, la personne qui travaille pour récolter les impôts, il prend l'argent qu'il touche, c'est la fonction publique. C'est obligé.
Non, mais la fonction publique, il n'y a pas que la zakat dedans. Il y a plein de choses dans le trésor public. Il n'y a pas que l'argent de la zakat. Il y a l'argent de pas le butin, etc. Il y a plein de choses. D'accord ? Donc lui, si son salaire, il est déjà versé par cet argent-là. Et Bayt al-Mal, c'est quoi Bayt al-Mal en fait ? C'est un argent qui appartient aux musulmans. Il n'appartient pas à des gens en particulier. Il appartient aux musulmans, de manière générale. Il n'appartient ni au gouverneur, ni à un tel ou un tel. Il appartient aux musulmans. Si son salaire, il est déjà versé par Bayt al-Mal, il ne prend pas la zakat. D'accord ? C'est soit l'un, soit l'autre. Hein ? As-sinf al-rabi' al-mu'allafatu qulubuhum. Jam'u mu'allaf. Hein ? مؤلفة جمع مؤلف من التأليف والتأليف هو جمع القلوب جمع القلوب وهو السيد المطاع في عشيرته هذا قول السيد المطاع في عشيرته فمن يرجى إسلامه أو يرجى كف شره وشر من معه أو يرجى بعطيته تقوية إيمانه فهذا مسلم يرجى تقوية إيمانه أو يرجى أن يتولى جباية الزكاة من قومه يعطى ما يحصل به التأليف La quatrième catégorie, ce que l'on appelle المؤلفة قلوبهم. Donc c'est qui cela ? Déjà, المؤلفة, c'est le pluriel de al-mu'allaf. D'accord ? Al-mu'allaf qui vient du mot al-ta'lif. Le fait de réunir. Réunir. Lier. C'est-à-dire ici, lier les cœurs. D'accord ? Donc on peut donner la zakat à celui dont on veut lier son cœur. C'est-à-dire, certains des parmi les ulama, ils disent c'est al-sayyid. C'est quelqu'un, c'est un chef, d'accord ? Un chef, un guide, qui est obéi par son clan. Qui obéit par son clan. Si c'est un kafir, mais que tu espères, en lui donnant la zakat à lui, qu'il embrasse l'islam, eh bien, tu peux lui donner la zakat. Parce que tu sais que si lui, il se convertit à l'islam, derrière, il y aura beaucoup de gens qui vont le suivre et qui vont faire la même chose que lui. D'accord ? Le gouverneur musulman, il voit qu'un pays, son chef, il est attiré par l'islam. Il a des relations très bonnes avec lui. Voyez? Et il sait que si lui, il embrasse l'islam, son peuple, il va le suivre derrière. Eh bien, lui, tu peux lui donner la zakat à cette personne-là. Ou alors, tu peux lui donner aussi, si c'est un kafir, mais pour te préserver de son mal. Te préserver de son mal ou du mal de ses compatriotes. Vous voyez? C'est des gens, tu sais que si tu leur donnes la zakat, ils vont donc avoir, vont te prendre en sympathie, ils vont t'aimer, et donc ils vont te préserver de leur mal. Un peuple qui est connu, par exemple, pour faire du mal aux autres. Hein? Pour faire du mal aux autres. Toi, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes la zakat pour qu'ils laissent les musulmans tranquilles. Qu'ils ne fassent pas de mal aux musulmans. Hada yajouz. Ou alors, le musulman, donc ce n'est pas forcément un kafir, ça peut être aussi un musulman. Un musulman dont tu espères renforcer sa foi. Quelqu'un, par exemple, qui vient d'entrer en islam, à peine, il n'y a pas longtemps, et tu espères que sa foi augmente et se fortifie en lui donnant la zakat. Tu peux faire cela aussi. Ou alors, un gouverneur musulman, taillé, mais dont le peuple ne veut pas verser la zakat. Taillé. Eh bien, lui, tu as le droit de lui donner la zakat pour l'aider justement à collecter la zakat de son peuple. Donc, tu vas lui donner ce qui va lui permettre de rassembler, de réunir les cœurs. Oui. C'est clair, les frères? Au fond? الصنف الخامس الرقاب فيعطى المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده من الزكاة ما يعجز عن وفائه من دينه. La cinquième catégorie, الرقاب. الرقاب, les esclaves. D'accord? Et donc, on peut donner la zakat à celui que l'on appelle el-mukatib. El-mukatib, c'est l'esclave. Et el-mukatib, c'est son maître. Donc, on va les appeler comme ça à quel moment? Eh bien, lorsque tous les deux vont se mettre d'accord sur le prix de sa libération. L'esclave, il va dire à son maître, je veux acheter ma propre personne. C'est-à-dire, je veux me libérer. Combien tu veux? Son maître, il va lui dire, je veux tant. Ils vont négocier, ils vont se mettre d'accord sur un prix. D'accord? Je veux 10 000 euros. 10 000 euros, tu es libre. Ici, s'opère ce qu'on appelle El-Mukatab. El-Mukatab. L'esclave qui fait ça, on l'appelle El-Mukatab. Et son maître, El-Mukatib. D'accord? Et donc, cet esclave-là, il va verser un apport. Hein? Il se peut qu'il lui reste une somme à verser. Donc, lui, s'il n'arrive pas à réunir la somme suffisante pour respecter et honorer ce contrat, eh bien, tu peux lui donner la zakat pour qu'il se libère. D'accord? Ça y est? فهذا هو الصنف الخامس من أهل الزكاة أهل الرقاب ويراد بهم أولا كما قال الشيخ المكاتبون الأرقة أولا الذين طلبوا أسيادهم إعتاقا بمبلغ من المال فيعطون ما يعتقون به لعجزهم عن وفاء ما عليهم ولو مع قدرتهم على التكسب. Donc, ça c'est la cinquième catégorie des ayants droit de la zakat. Al-riqab. Donc, al-riqab. En fait, il y a trois façons ici de leur donner la zakat. Premièrement, celui hein, dont on a dit qu'il s'est mis d'accord avec son maître que sa libération va coûter tant. Et donc, il est prêt à racheter sa propre personne. Donc, il va réunir lui-même l'esclave. Il va réunir lui-même la somme afin de se libérer. Ça y est. Une somme d'argent hein, particulière. Non. Donc, on va lui donner de quoi se libérer. Parce qu'il n'a pas la capacité de rassembler cette somme-là. Donc, on va lui donner. Afin qu'il s'acquitte de sa dette. Et qu'il puisse se libérer. Même s'il a un travail. Il se peut qu'il ait un travail, l'esclave. Il a un salaire. Mais il n'arrive pas, malgré ça, à réunir la somme. Eh bien, tu peux lui donner la zakat. Afin qu'il se libère. وَكَذَلِكُمْ سُورَةَ ثَانِيَةَ الْأَسِيرُ الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ عِنْدَ الْكُفَّارِ الْأَسِيرُ الْمُسْلِمُ عِنْدَ الْكُفَّارِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ مِنَ الْأَسْرِ لأن في ذلك دفعا لحاجته كدفع حاجة الفقير ولأن فك رقبته من الأسر أولى من فك رقبته من العبودية. Deuxième contexte, le prisonnier, le captif musulman qui est tenu prisonnier par les kuffars. D'accord ? Imaginez-vous, il y a eu une guerre, etc. Hein, vous savez que avant, lorsqu'il y avait des guerres, celui qui il y avait des captifs, des prisonniers, etc. de guerre. D'accord ? Donc le musulman prisonnier de guerre chez les kuffars, tu as le droit de donner la zakat aux kuffars pour le libérer. Pour le libérer de son état de prisonnier. D'accord? Déjà, de un, parce que Yanni, c'est une façon de donner ce dont il a besoin, hein, le prisonnier, comme tu donnes au pauvre ce dont il a besoin. Et deuxièmement, parce que libérer un prisonnier de guerre, ou un prisonnier qui est tenu prisonnier chez les kuffars, est prioritaire au fait de libérer un esclave. Qui peut être un esclave chez un musulman. D'accord? Et le prisonnier de guerre, il est prioritaire par rapport à l'autre, en vérité.
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Là, tu parles de Zakat de Foud,
non? Non, c'est que t'es le mal. Ah, depuis tout à l'heure, tu t'es Zakat de
Foud. Ouais, non, en fait, je n'ai pas compris, en fait, quand on parle de Zakat de Foud.
Parce qu'en fait, le cheikh, on a parlé de la Zakat de Foud, déjà. Après, il a parlé de la Zakat de Foud. Là, on parle de ceux qui ont droit à la zakat elle-même. La zakat obligatoire. D'accord? La zakat obligatoire. Zakat al-fitr, c'est pour les pauvres. Zakat al-fitr, c'est pour les masakin, les fuqara. D'accord? La surat al-thalitha. Al-nashtariya min al-zakat raqiqa. فَنُعْتِقُ هَذَا جَائِز. Troisième contexte, situation possible, tu prends ta zakat et tu vas acheter l'esclave, toi-même, tu l'achètes. Pour le libérer, bien sûr. Pas pour le garder, pour le libérer. D'accord? C'est-à-dire un esclave qui n'a pas fait de contrat avec son maître de libération, qui n'est pas mukatab. N'importe quel esclave. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu l'achètes pour le libérer. Ça, c'est permis aussi, d'accord? Donc, ces trois situation-là rentre dans Wafir Riqab. Tu l'as compris?
Tu as dit pour libérer. Si les esclaves ils s'enfuient.
Ouais, ils s'enfuient.
Parce que tu as déjà un esclave, j'avais.
Comment c'est ils s'enfuient? Je l'achète pour le libérer. Pourquoi tu veux qu'il s'enfuit, frère?
Non, mais.
Au contraire, il va rester avec toi. Il va déjà.
Il est esclave. Il est esclave et. C'est malgré lui. Il est esclave, j'ai dit. Je sais pas comment t'expliquer, en fait. Il est un maître.
Hein? Il est un maître. Toi, quand tu vas l'acheter, ce sera toi son maître.
Prends-moi, je veux dire. Je sais pas comment.
Moi non plus, hein. Je sais pas comment te répondre.
Mais si le gars il veut pas être esclave, j'ai dit.
Si le gars il veut pas esclave,
pas esclave musulman. Comme
un servant. Non, on parle d'esclaves musulmans. Voilà, on parle d'esclaves musulmans. C'est ça que tu voulais dire, esclaves non musulmans?
Voilà, tu es un esclave, tout simplement un esclave.
Non, je ne faisais pas une longueur d'onde. Non, la personne t'a compris un peu.
Je sais pas comment te dire.
Quand on a les films, ouais. Les esclaves, quand on a les films,
c'est
des esclaves qui sont musulmans.
Oublie, frère, les films.
Non, pas les films, c'est comme ça.
Non, on parle des. De l'esclave, yani, qui est connu dans la législation islamique. Un esclave qui est esclave, il appartient à son maître. C'est son bien.
Non, mais on n'a pas connu ça, c'est normal. Tu comprends ça.
Non, c'est vrai.
Ça existait à l'époque de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Et comme Ali.
Non.
Bilal. C'était un esclave ou pas? C'était un esclave. L'islam, il est venu pour encourager à libérer les esclaves. Mais ça ne veut pas dire que c'est haram. D'accord? Il est venu pour libérer un esclave. D'ailleurs, il y a plein de choses qui font que la personne libère l'esclave. Les expiations, etc. etc. D'accord? Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves du tout. Alhamdulillah. Mais ça existait.
C'est-à-dire que l'esclave s'il venait à s'enfuir, il était dans le péché.
Bien sûr, dans l'illégalité. Il est dans l'illégalité.
C'est ça, le chaleur. On le tue.
Bon, on n'est pas là pour... tu vois, mais chara'an, il n'y a aucun problème, ça existe. Ça existe. D'accord? Allah tabarak wa ta'ala, il n'a pas interdit. Allah, il a encouragé, certes, à affranchir les esclaves, parce que c'est une bonne action, etc., mais il ne faut pas qu'on ait un œil, un point de vue condamnable, qui condamnerait ce genre de choses. Vous voyez? Faut savoir que c'est le résultat des guerres aussi. C'est le résultat des guerres entre clans, entre tribus, etc. etc. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est pas comme ça. Et à ne pas comparer surtout avec ce qu'ils faisaient les kofars, avec... les Nord d'Afrique ou autre, ça n'a rien à voir. Ou le maltraitement qu'il faisait sur ces gens-là. La maltraitance.
C'est bon, ça, quand je le comprends en français, qu'il dit d'avoir des rapports avec leurs femmes et leurs esclaves, comme ça.
On s'éloigne, frère, on s'éloigne. On s'éloigne. Taïe. On était où, là? La troisième. On achète, on vend. Non, ça. On achète.
On libère.
Tu achètes. Tu vas tuer, frère. On achète, on libère. D'accord? Ça va, vous.
Sur que je sonne dans les poissons.
Si tu veux.
Ouais, je mets que les bateaux.
Ceux qui vont marcher le bateau.
Là, ils ont trop regardé les films. Abistad. Abdouella. Donc, on finit, Inch'Allah. La yajouz. En yu'tiq as-sayyid. رقيقه من الزكاة هذا لا يجوز طيب السيد يعتق رقيقه من الزكاة من زكاته، لأن هذا مثل إسقاط الدين عن الزكاة، هذا لا يجوز. Par contre, il n'est pas permis. On reste dans la zakat toujours. Celui qui est un esclave, il va affranchir son esclave, mais avec la zakat qu'il doit donner. Oui, on a vu que on a le droit de donner la zakat pour libérer un esclave. D'accord ? Mais le maître, celui qui est un esclave, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit de faire ça. Soit il libère son esclave gratuitement ou en acceptant la zakat de quelqu'un d'autre, mais avec sa zakat à lui, il n'a pas le droit. D'accord ? Parce que c'est une façon détournée, en fait, une façon détournée de ne pas verser la zakat. D'accord ? C'est comme celui qui doit de l'argent. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Et celui à qui tu dois de l'argent, il est pauvre. Et toi, tu dis quoi ? Je vais rembourser ma dette et je vais mettre l'intention dans la zakat aussi. Vous voyez ? Je vais lui rendre son argent, il m'a donné 1000 euros. Et en même temps, en vérité, je verse ma zakat en même temps. Et je considère que c'est un pauvre. Ah, c'est pas permis. C'est pas permis. Vous voyez ? Parce que c'est une façon détournée, en fait, de t'arranger à toi. Donc la zakat, elle n'est pas faite pour t'arranger à toi. Elle est faite pour arranger les autres. Les pauvres, etc. D'accord ? Ce n'est pas permis de faire ça aussi. Non. C'est bon, Ikhwan ? Khalas ? Alhamdulillah. Naktafi bihadha, inshallah. Wa la ilma inda Allah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم